massivement des énergies fossiles. David Thompson, Miami, RFI.
C'est ainsi que se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur RFI. Vous êtes avec Juan Gomez pour Appel sur l'actualité. C'est à vous, Juan. Merci.
Radio G. 101.5 FM.
Impromptu littéraire.
Voici quelques pages écrites par Anne Brunswick sur les Juifs de Sibérie,
poétesse et universitaire, dont nous avons choisi de vous donner le témoignage.
Amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous vous proposons la lecture à plusieurs voix.
Les femmes en avaient payé le plus lourd tribut. Le cas de Yissou.
Pour amener un peu de légèreté dans cet univers marqué par une histoire souvent terrible.
Je voudrais choisir un extrait du chapitre 9, intitulé.
Assise près de l'incubateur. Espèce de navire miniature en plexiglas.
On sélectionne la main-d'œuvre destinée aux mines, aux chantiers, aux coupes de bois.
Des textes d'auteurs du 20e et du 21e siècle viennent jusqu'à votre oreille. Écoutez.
Amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Patrick Tarot, auteur de ce recueil de nouvelles, Le rire du singe, dont nous allons lire quelques extraits.
Bonjour, bonjour Patrick.
Bonjour.
Patrick, la première de ces nouvelles donne le titre de ce recueil. Pourquoi ce titre, Le rire du singe, quand on prétend que le rire est le propre de l'homme ?
Dans la mesure où cette expression permet d'aborder cette nouvelle sous deux angles. Premier angle, c'est le travail, l'emploi d'un des personnages principaux, puisque cette personne fait un rôle de singe, il est déguisé en singe dans une fête foraine, et que à la fin de ce train fantôme, puisque c'est un train fantôme, ce manège, eh bien, après avoir fait un peu peur aux enfants, il éclate de rire. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est qu'il est là dans un but bien précis, ce personnage, pour remplir une mission bien précise et qui va lui permettre également en réalisant cette mission, de se rire, de se moquer de tous les détracteurs qui auront pu n'être pas très sympathiques avec lui.
Voilà, qui nous donne envie d'écouter le début de cette nouvelle. Et je vois que vous avez situé cette histoire dans une fête foraine. Nous-mêmes avons trouvé comme morceau musical « Peur sur la ville » d'Ennio Morricone. Peur sur la fête foraine, donc.
Oui, c'est un endroit, la fête foraine, qui est très particulier. Pour y avoir passé de nombreuses années à la fête foraine à Angers, à la foire Saint-Martin, c'est un endroit qui est assez à la fois magique lorsqu'on est enfant, adolescent, même adulte, avec toutes ces couleurs, tous ces bruits, mais quelque part aussi peut-être quelque chose d'inquiétant et l'idée de cette sorte de polar, puisque on pourrait le qualifier un peu de cette façon, c'est effectivement de développer ce côté inquiétant qui peut exister à travers dans cette fête foraine. En parallèle, on pourrait peut-être peut avancer l'idée du clown. Hein. Le clown peut être un personnage parfaitement sympathique, faire rire et en même temps un peu inquiétant.
Merci. Nous allons donc découvrir le début de cette nouvelle. À 9h43, la Renault Mégane du capitaine Beaufort stoppa net près des autotamponneuses.
L'homme qui en sortit n'était ni trop grand, ni trop gros, ni trop souriant. Légèrement bedonnant, la cinquantaine, cheveux châtains. Il alluma une cigarette, une Camel filtre, la quatrième de la matinée, compta-t-il en évitant une claque d'eau.
Bonjour, capitaine. Je vais vous conduire jusqu'au train fantôme.
Beaufort bougonna vaguement quelque chose, remontant le col de son manteau, et emboîta le pas au gardien de la paix qui venait de l'apostropher. Les deux hommes contournèrent la chenille, puis filèrent dans la première année de la fête foraine. Pas de clients le long des stands déserts en ces froides matinées de décembre 2004. Seuls quelques forains vaquaient à leurs occupations. Certains lançaient un regard inquiet vers Beaufort et son subordonné. Ils savaient. La nouvelle s'était répandue comme une traînée de poudre.
« C'est pas joli à voir, capitaine. »
lâcha le gardien de la paix. Face au mutisme de son supérieur, il s'essaya à une blague d'humour noir. Même résultat. Au détour de la catapulte, Beaufort aperçut l'attroupement. Juste devant le train fantôme. Des forains, des policiers en uniforme, des pompiers. Il évita une énième flaque d'eau, salua plusieurs collègues, un pompier gradé et un gros bonhomme qui parlait très fort, soufflant comme un phoque et remuant les bras dans tous les sens. Sur la façade du manège, les couleurs toutes plus pétaradantes les unes que les autres lui sautaient au visage. Une tête de mort qui ricanait, un vampire, les canines dégoulinantes d'hémoglobine, une blonde tulteuse, poursuivie par un boucher armé d'une tronçonneuse, des serpents monstrueux harnachés de crochets à faire pâlir un orthodontiste.
C'est à l'intérieur. On n'a touché à rien.
Beaufort écrasa sa cigarette et, slalomant entre les wagonnets, s'engouffra dans le ventre de la bête, accompagné par deux policiers en uniforme et un pompier. Les squelettes en plastique succédaient aux cercueils en carton. Au bout d'une vingtaine de mètres, ils rencontrèrent un wagonnet vide, immobilisé sur les rails. Au sol, Beaufort remarqua deux jambes qui dépassaient, juste devant un petit véhicule.
« Voilà, c'est ici. »
dit simplement un policier. Le corps était allongé sur les rails. Beaufort rabaissa le col de son manteau en observant l'énorme flaque de sang. Un homme d'une soixantaine d'années, peut-être. Il ne restait plus grand-chose du crâne du malheureux qui semblait avoir littéralement explosé sous les coups d'un gourdin ou d'une massue. Des morceaux d'eau et de cervelle mélangés au sang et à quelques touffes de cheveux parsemaient le sol tout autour du wagonnet. Le capitaine balaya l'endroit du regard. Pas grand-chose d'autre à voir. Dans un recoin, Dracula lui souriait. Un peu plus loin, un T-Rex avait l'air de lui faire de l'œil.
« Les gars du labo seront là dans quelques minutes. »
déclara le lieutenant Lépine, un grand gaillard brun d'une trentaine d'années, sec comme un biscuit, avec une tête d'oiseau et une minuscule queue de cheval dans le cou.
« La tuerie a dû avoir lieu ce matin. » Les tout premiers témoignages parlent de bruits bizarres sur le coup de 6 heures du mat à l'intérieur du train fantôme.
Bon, on démarre sur le proprio du manège et les forains du voisinage. On attaque ensuite sur l'identité de la victime. Beaufort s'arrêta un court instant puis rajouta en tournant les talons. Je demande au préfet la fermeture de la fête foraine jusqu'à nouvel ordre.
Ça va gueuler, hein.
Lorsque le groupe sortit du train fantôme, personne ne remarqua le jeune adolescent qui esquissait un net mouvement de recul entre deux manèges, évitant ainsi d'être aperçu. Serge Bartoli, curé à l'église Saint-Charles et à l'église Saint-Justin. Pas forcément bien vu sur sa hiérarchie, mais faisait correctement son boulot.
Déclara le lieutenant Lépine en jetant une chemise bleue à élastique rouge sur le bureau de Beaufort. Celui-ci soupesa le document, semblant évaluer l'intérêt du dossier au poids de la paperasse.
C'est son pédigré RG. Mathieu Palais me l'a refilé hier soir. Le nom de la victime lui disait quelque chose. Il a retiré ça de ses fichiers, j'ai bossé dessus toute la matinée. Il y a des trucs bizarres.
C'est-à-dire ?
Le gars ressemble plus à Che Guevara qu'à Clément VI.
Pourquoi Clément VI ?
Bah, je sais pas, j'ai dit Clément VI, j'aurais pu dire Albert Ier. Mais je trouve que ça fait plus pape qu'Albert Ier, qui fait penser à Monaco.
Oui, ça se tient. Et pourquoi Che Guevara ? Le lieutenant Lépine s'empara d'une chaise pour y étaler sa longue carcasse.
D'après les renseignements généraux, c'était un curé rouge. Il fréquentait les associations de soutien aux immigrés.
Et ça explique qu'on le retrouve la tête fracassée dans un train fantôme ?
On va savoir.
Le capitaine Beaufort souffla lentement, fit glisser l'élastique de la chemise cartonnée
et commença la consultation des différentes fiches. Il étala d'abord sur le bureau plusieurs photos de la victime. Un homme grand, bien bâti, cheveux courts tirant sur le blond, yeux d'un bleu intense. Puis il feuilleta les divers rapports. Lépine suivait le regard de son supérieur qui passait de pas en page.
« Il n'a pas toujours été curé, notre Serge Bartoli ?»
reprit le lieutenant comme pour rompre le silence.
« Non ? Non, tu verras. Dans une vie antérieure, il était militaire. »
Beaufort acquiesça d'un léger signe de tête. « Le sabre et le goupillon. »«
Infanterie de marine, force spéciale, continua Lépine comme s'il n'avait pas entendu, a participé à un certain nombre d'opérations extérieures. » Il a mis les voiles après 15 ans de bons et loyaux services. S'est ensuite recyclé dans l'église catholique.
Un air interrogateur se dessina sur le visage de Beaufort.
Oh, faut tout pour faire un monde,
commenta-t-il en refermant le dossier et en replaçant l'élastique.
Une fête foraine sans bruit, sans lumière, sans cri d'enfant, peut prendre des allures fantomatiques, inquiétantes même. C'est un peu ce sentiment qui envahissait Beaufort au fur et à mesure qu'il progressait au milieu des flaques et des manèges à l'arrêt. Il alluma une camel filtre, la cinquième de la matinée, souffla un nuage de fumée et reprit sa marche. Il croisa les regards de quelques forains qui le dévisageaient d'un œil mauvais. La décision préfectorale de cessation temporaire d'activité n'avait pas fait que des heureux. L'homme qui l'accueillit devant le train fantôme n'avait pas l'air plus engageant que ses collègues. Forte corpulence, blouson de cuir légèrement entrouvert, sur une simple chemise blanche malgré le froid de canard. Il serra néanmoins la main que Beaufort lui tendait.
« Suivez-moi, ma caravane est derrière. »
Une fois calé sur la banquette du salon, deux tasses de café fumant sous le nez, Tony Lampa glissa ses doigts dans sa barbe noire et fixa Beaufort droit dans les yeux.
« Allez-y, chef, qu'est-ce que vous voulez savoir ?»
Beaufort tourna la petite cuillère dans la tasse en jetant un coup d'œil rapide à l'intérieur de la caravane. « D'abord, je ne suis pas chef, mais capitaine de police. Ensuite, j'aimerais que vous me décriviez très précisément la découverte du corps dans votre manège. » Tony Lampa sembla exploser.
« Mais merde ! J'ai d'abord expliqué tout ça au premier flic arrivé sur les lieux, ensuite aux pompiers, ensuite à votre collègue lors de ma première convocation dans vos locaux il y a 24 heures. Et maintenant...
Beaufort tenta de calmer le jeu. Les deux mains, il fit signe à Lampa de se contenir.
D'accord, monsieur Lampa, gardons notre sang-froid. Je comprends que vous soyez à cran.
Je suis à cran de rien. Mais on vient m'emmerder, moi et tous les autres collègues, dans notre travail. Vous croyez que ça nous amuse de voir les manèges fermés ? Jusqu'à quand ? Tout ça pour un pauvre mec qui n'a pas arrêté de nous chier dans les bottes.
Beaufort afficha un air surpris. Il saisit sa tasse de café et avala une gorgée brûlante.
Un pauvre mec qui vous chiait dans les bottes ? C'est-à-dire, monsieur Lampa, pourriez-vous préciser votre propos ?
Car, au lieutenant Lépine, vous avez parfaitement décrit la découverte du cadavre, votre stupeur et votre dégoût devant l'état du corps. Vous avez justifié que vous aviez croisé M. Bertoli à deux ou trois reprises, mais à aucun moment vous n'avez mentionné qu'il vous chiait dans les bottes.
Lampa regarda furtivement de chaque côté de la banquette, saisit sa tasse et avala à son tour une gorgée, comme pour se calmer.
Non, mais bon, je m'énerve. C'est vrai, mais il y a de quoi. C'est déjà pas drôle de trouver un mort, et dans cet état-là, en plus. Et maintenant, les interrogatoires, à la fermeture de la foire. Et puis quoi ensuite ?
Le ton employé par Beaufort devint glacial. Parlez-moi de vos relations avec Serge Bartoli. L'énervement reprit Lampa.
Quoi, mes relations ? Mais j'ai jamais eu de relation avec ce mec. Je sais juste que c'était un curé. Remarquez, je l'ai jamais vu en uniforme, un peu comme vous. On m'a dit qu'il était curé, c'est tout.
C'est exact, confirma Beaufort. Continuez.
Mais continuez quoi ?
Ben, vos rapports avec ce prêtre.
Mais je vous dis que je n'ai pas eu de relation particulière avec lui.
Il avala une nouvelle gorgée de café, comme s'il souhaitait absolument calmer la machine. En vain, car il reprit du même ton colérique.
C'était un fouille-merde, je vous dis, un vrai fouille-merde.
Mais un fouille-merde à quel propos, monsieur Lampard ? La voix du capitaine devenait cassante comme un morceau de glace. Je n'y comprends rien, et je vous avoue que j'ai horreur de ne pas comprendre. Une sorte de déformation professionnelle. Cela me rend susceptible, moi aussi, et même un peu nerveux, si vous voyez ce que je veux dire. Le ton employé par Beaufort sembla calmer Tony Lampard.
C'est bon, ça va. Montez pas sur vos grands chevaux. Quand je vous dis que c'était un fouille-merde, je veux dire qu'à chacun de nos passages dans cette putain de ville, on avait droit à l'inspection de monsieur le curé.
Inspection de qui, de quoi ? Lampard avala une nouvelle gorgée de café.
Eh bien, les premiers jours, il venait fouiner autour des manèges, pour voir.
Pour voir quoi ? Tony balança la tête de droite à gauche plusieurs fois. Pour voir quoi ? Insista Beaufort. Il n'inspectait tout de même pas les systèmes de sécurité.
Ce connard de curé venait voir si on n'exploitait pas des petits malheureux. C'était son fonds de commerce, à lui.
Mais c'est le boulot de l'inspection du travail, ça.
Oui, enfin non. Ce qu'il voulait savoir, c'était s'il n'y avait pas des attractions qui bafouaient la dignité humaine, comme il disait.
C'est-à-dire ?
Bah, je sais pas, moi. Des lancers de nains, par exemple. Vous voyez le genre ?
Vaguement.
Tiens, il y a 3 ans, il avait même réussi à faire virer par arrêté municipal l'attraction d'un collègue.
Un lanceur de nains ?
Non, lui, c'était la plus grosse femme du monde. Enfin, du grand n'importe quoi. La nana à l'intérieur, elle était bien bondelette, ça, c'est sûr, mais c'est tout. Ensuite, il y avait juste un système de miroir qui déformait encore plus la bonne femme. On aurait dit qu'elle pesait 300 kilos.
Oui, et...
Eh bien, ce con, il a réussi à faire interdire l'attraction, même si c'était seulement un jeu de miroir. La municipalité l'a suivi. Elle a estimé que, miroir ou pas, c'était malsain.
Il haussa les épaules.
On vit dans une société où on ne peut même plus se marrer. Il n'y avait quand même pas mort d'homme.
Beaufort frotta doucement ses mains l'une contre l'autre. Si, justement, il y a, et dans votre attraction. Monsieur Lampard, la conclusion de l'expertise scientifique nous indique que c'est bien dans votre train fantôme que le crime a été commis. Le corps n'a pas été amené là. On a éclaté la tête de Serge Bartoli à l'intérieur même de votre manège. Sans doute entre 6h et 6h30 du matin.
Bon, bah, et alors, je dormais à cette heure-là. Ma femme peut témoigner.
Quelqu'un d'autre aurait pu s'en charger sur votre ordre. Vous sembliez avoir de l'animosité envers lui, non ?
Mais comme tout le monde, hein. Ici, comme tout le monde.
Il désigna du doigt, à travers la vitre, les caravanes environnantes.
Alors vous voulez inculper les 150 industriels forains qui sont là ? C'est ça ? Eh ben, allez leur dire tout à l'heure en sortant.
Le capitaine fit un effort surhumain pour garder son calme. Monsieur Lampard, je n'inculpe pas. C'est le juge d'instruction qui met en examen, pas moi. 2, je ne soupçonne personne a priori. J'enquête, c'est tout. Et comme vous venez de qualifier la victime de fouille-merde, cela éveille, disons, mon intérêt. Rien de plus, rien de moins. Est-ce bien clair ? Tony allongea ses jambes sur le côté de la table.
Eh bien, vous perdez votre temps, chef. Parce que c'est exact que ce curé était un vrai fouille-merde, mais on n'a jamais eu aucun rapport, lui et moi.
Puisque vous l'affirmez, fit Beaufort en avalant le fond de café et en se levant de la banquette. Il reboutonna son manteau et releva le col avant d'ajouter en se dirigeant vers la sortie. Il va sans dire que vous restez à notre disposition, monsieur Lampard.
Je suis suspect, c'est ça, hein ?
Disons simplement que vous faites partie du peloton de tête.
Sortant de la caravane de Tony Lampard, le capitaine Beaufort avançait tranquillement à travers les allées désertes et les manèges sans vie. Il sentait
néanmoins une présence derrière lui. Il pressa un peu le pas. La présence s'accentuait. Au bout d'une cinquantaine de mètres, il s'arrêta et fit brusquement demi-tour. L'homme qui le suivait stoppa net également. Beaufort dévisagea le petit maigrichon à lunettes qui lui filait le train et s'approcha de lui.
« C'est à quel sujet ?»
L'homme répondit juste par un léger signe de la main, signifiant au policier de le suivre. Ils avancèrent silencieusement d'un pas rapide l'un derrière l'autre, entre les manèges, puis entre les caravanes, pour finir par entrer dans l'une d'entre elles. Le maigrichon indiqua la banquette au capitaine et s'assit sur celle d'en face.
« C'est quoi ces mystères ?» commença Beaufort en déboutonnant son manteau.
« Oh, il n'y a pas de mystère !» répondit l'homme d'une voix incroyablement grave au regard de sa corpulence.
« Pourquoi ces silences alors ?»«
Tony est une enflure, et une enflure violente en plus. Et je n'ai pas envie qu'il apprenne que je vous ai parlé. »«
Ah, et vous avez des raisons de craindre Monsieur Lampin ?»«
Je m'appelle Michael Longchamp. » répondit seulement l'homme en tendant sa main à Beaufort qui la serra mollement.
« Ravi de vous rencontrer, Monsieur Longchamp, mais j'aimerais bien savoir qui. »
« Je vous l'ai dit, Tony est une enflure. »«
C'est possible, mais... »
« Une enflure et un menteur. Tout le monde sait ça ici. »
Le capitaine passa sa main sur ses joues mal rasées et poussa un léger soupir. Quel âge pouvait avoir ce Michael assis en face de lui ? 35, 40...
Et il m'aurait menti sur quoi ?
Reprit le policier. Et Michael eut un air gêné.
J'ai entendu votre conversation tout à l'heure. Ce qu'il vous a dit ?
Tiens donc, on écoute aux portes.
J'étais tout près de sa caravane.
Admettons. Donc, vous avez écouté un interrogatoire mené par un officier de police judiciaire sans y être convié. C'est bien cela ?
Michael se leva d'un bond.
« Je ne vous ai rien dit, commissaire. Vous ne m'avez pas vu, ma caravane, et je préfère qu'on en reste là. »
Beaufort souffla très fort.
« Allons, monsieur Longchamp, cessez ces gamineries. Voulez-vous ? Et je suis capitaine de police, pas le commissaire Maigret. D'ailleurs, je ne fume pas la pipe. Asseyez-vous et dites-moi ce que vous avez sur le cœur. »
Michael reprit place sur la banquette. Le policier le dévisagea longuement, avant de reprendre.
Vous possédez quel manège dans cette fête foraine ?
Je n'ai pas de manège. Enfin, pas vraiment. Je m'occupe des canards.
Des canards ?
Oui, vous savez, les petits canards en plastique pour les mômes. Ceux qui tournent dans l'eau et qu'il faut attraper avec une canne.
Ah oui, je vois. Et vous enviez le manège de Monsieur Lampin, c'est ça ?
J'en ai rien à foutre de son manège pourri. Et puis, avec mon ami, on est encore dans la force de l'âge. Même si j'ai déjà un jeune ado, on se fait juste un peu de blé et après on change de vie.
Pourquoi ? Ça nourrit pas son homme, les canards ?
Tony vous a parlé du singe ?
Le singe ? Je ne savais pas qu'il y avait des singes dans cette fête foraine. C'est quoi cette histoire de singe ?
Michael regarda fixement Beaufort.
Vous êtes déjà allé dans son train fantôme à Tony ?
Esquissa un léger sourire.
Non, pas vraiment. Et puis, mes enfants sont grands aujourd'hui. Alors, vous savez, monsieur Longchamp, les trains fantômes, ça fait un petit moment que je ne les fréquente plus.
Donc, vous n'avez pas vu le singe ?
Non, je n'ai pas vu le singe. Où voulez-vous en venir exactement avec votre histoire de singe ?
Donc, vous n'avez pas vu Coco ?
Beaufort marqua un signe d'impatience.
Non, je n'ai pas vu Coco. C'est quoi ? Mais c'est qui, ce Coco ?
Coco, c'est le singe.
Le policier souffla longuement et passa sa main sur son crâne qui commençait à se dégarnir dangereusement.
« Au fait, monsieur Longchamp, au fait, je n'ai pas de temps à perdre. »
Coco, c'est le singe, ou plutôt le gorille qui court après les wagonnets dans le train fantôme pour effrayer les mômes dans le noir.
« Ah oui, le singe, le mec déguisé en singe qui fait peur aux gosses. D'accord, j'y suis. »
Vous avez rencontré Coco ?
Non, je n'ai pas rencontré votre Coco. Mais ça viendra. On interroge beaucoup de monde dans cette affaire. Et les employés du manège de Monsieur Lampin seront auditionnés en temps voulu.
Michael sembla se détendre.
Il est gentil, Coco, vous savez.
Après avoir effrayé les mômes, il éclate toujours d'un grand rire à la fin. Ben, ça les rassure, et les gosses se marrent à leur tour.
Écoutez, mon vieux, votre coco est certainement quelqu'un de très sympathique et...
Parce que moi, je trouve ça dégueulasse.
Qu'est-ce que vous trouvez dégueulasse ?
Michael se tordit les ses doigts.
Moi, je pense que c'est gerbant d'obliger quelqu'un à faire ça toute la journée.
Oh, vous savez, des métiers où on vous contraint à faire des trucs pas sympas, il y en a quelques-uns.
Ouais, mais là, en plus, il est noir, coco. Vous pigez ? Coco, singe, singe, coco. Le noir qui fait le singe, oh, c'est pas terrible.
Beaufort laissa son regard filer sur l'un des vaisselles mal rangées.
Vous voulez dire que M. Lampin est raciste et que ça l'amuse qu'un black fasse le singe, c'est cela ?
Vous savez, capitaine, des racistes, il y en a partout. Chez les forains, pas plus, pas moins qu'ailleurs. Coco, c'est un demandeur d'asile. Il était étudiant. Il a fui la Centrafrique. C'était plus vivable. Là-bas, il a vécu des choses terribles quand il était môme.
Un clandestin, c'est ça ?
Non, non, il a ses papiers, Coco. Il attend la réponse de l'administration à sa demande d'asile.
Alors ?
Bah, faut vous faire un dessin. Et en plus de lui mener la vie dure, de se foutre de sa gueule d'Africain noir, il lui fait faire le singe. Avec ça, lui et ses potes, ils se marrent bien. Quant au salaire, c'est au lance-pierre.
Eh bien, on préviendra l'inspection du travail, si ça peut vous rassurer.
Mon coco, elle voyait souvent le curé.
Le capitaine stoppa net son mouvement vers la porte de la caravane.
Comment ça, il voyait souvent Bartoli ?
Michael fit signe au policier de s'asseoir.
Oui, le curé rendait régulièrement visite à Coco dans son combi Volvo. Il l'observait souvent aussi dans le manège. Et ils se rencontraient en ville.
Attendez, attendez. Monsieur Lampin ne m'a pas dit que Serge Bartoli venait souvent le voir.
Michael poussa un petit ricanement.
Ah bon ? Bah pourtant, ils se sont engueulés plus d'une fois, lui et le curé, devant le manège ou le combi des cocos.
Des coups ?
Non, mais des menaces, ça oui. Je le sais, parce que mon stand est juste à côté. Ah, combien de fois Tony lui a dit qu'il allait lui exploser la tête s'il continuait à voir Coco ?
Beaufort laissa s'écouler quelques secondes.
Et votre coco, il répondait quoi ?
Bah rien. Rien de spécial. Peut-être qu'après ce qu'il avait vécu chez lui, tout ça lui paraissait pas bien méchant.
Il marqua un temps d'arrêt avant de reprendre.
Mais après ce qui vient de se passer, je voulais dire tout ça à la police, hein. Voilà, comme ça c'est fait.
Il y avait bien longtemps que le capitaine Beaufort n'avait pas croisé ce type de véhicule. Il faut dire qu'il n'avait pas trop fréquenté dans sa jeunesse les milieux hippies. Et les rassemblements écolos n'étaient pas vraiment sa tasse de thé. Alors, un combi Volvo, celui-ci était bien pourri. Étonnant même qu'il puisse encore aligner des kilomètres sur un compteur qui avait dû en voir défiler pas mal. Comme ça, vous gardez un double des clés ? Tony Lampin prit un air gêné.
Disons, par sécurité, on sait jamais. Si Coco faisait un malaise...
Ben, voyons. Le capitaine alluma une cigarette, la 11e de la journée. Il nota qu'il était en progrès constant. Il observait ses collègues de la police scientifique, allant et venant autour et à l'intérieur du véhicule. Personne ne remarquait les deux yeux noirs, fixant les policiers qui allaient et venaient. Les deux yeux noirs d'encre d'un jeune ado, planqués entre deux caravanes, une vingtaine de mètres plus loin. Harnaché de combinaison blanche, masque sur le visage, les policiers s'employaient à ramasser et à classer consciencieusement tous les objets présents dans le combi. Vêtements, restes de nourriture, matériel de cuisine. Chaque centimètre carré était passé au peigne fin. Beaufort leur avait juste demandé de laisser de côté tous les papiers, journaux, revues ou courriers divers. Il feuilleta longuement plusieurs publications africaines, écrites en français ou en anglais. On y parlait de répression, de coups d'État, de violences multiples et variées. Beaufort crut même reconnaître sur une photo d'un hebdo le visage de Coco que le service des étrangers lui avait communiqué la veille.
Toddy haussa les épaules.
Bon, vous savez, mon commandant, ils se ressemblent tous, ces gars-là.
Le capitaine ne répondit rien, se contentant de plier le journal en deux et de le glisser dans la poche de son manteau. Il fit signe à un expert en combinaison blanche. « Vous me mettez toute cette paperasse dans une caisse à part, à transmettre à M. Palais chez les RG. »
Patrick, vous étiez professeur des écoles et aviez introduit la philosophie dans vos classes. Actuellement, vous êtes formateur au sein de la fondation Sève, Savoir, Être et Vivre Ensemble, dirigée par Frédéric Lenoir, ce qui permet la diffusion de cette approche au sein du milieu scolaire. En quoi cette nouvelle, Le rire du singe, s'inscrit dans cette démarche?
On pourrait dire à partir de deux niveaux. Le premier niveau, mais sans dévoiler la fin de l'histoire, de la nouvelle, dans la mesure où cette histoire va poser une problématique importante autour des crimes contre l'humanité. Et la question qui va être posée, mais là encore une fois sans risquer de dévoiler la fin de l'histoire, c'est peut-on tout pardonner ? Le travail sur la mémoire, sur l'oubli, sur le pardon, qui sont des questions effectivement à visée philosophique. Deuxième approche philosophique de cette histoire, eh bien, c'est, on va dire, un peu la complexité, puisqu'on se laisse emporter dans cette histoire vers une voie qui ne sera pas la bonne, et toute l'enquête du policier va nous montrer aussi ce travail de professionnel pour démêler des situations complexes. Et ça me semble important, effectivement, vous l'avez rappelé, en tant qu'enseignant ou formateur d'enseignants, de former nos jeunes à la complexité des choses, à la complexité des problèmes, et de ne pas se satisfaire du prêt-à-penser que l'on peut trouver dans de nombreux médias, et notamment sur les réseaux sociaux. Voilà donc un peu deux approches, on peut dire, un peu philosophiques de cette histoire.
Amis auditeurs, nous vous invitons à continuer la lecture de cette nouvelle et des deux autres qui composent ce livre, paru en 2020 aux éditions Boukeles. Anne et Annie ont préparé et lu ces textes. Claude Michel en a assuré l'enregistrement. Nous remercions Patrick Tarot pour sa présence. Merci de votre écoute.
Merci.
Chers auditeurs, si vous souhaitez réagir à cette émission, en connaître les horaires, la télécharger, nous rejoindre, rendez-vous sur le site de Radio G 101.5 ou sur le site de l'émission www.impromptu.fr. Vous nous y retrouverez.
Radio G, savourez nos différences. En RNT sur Angers. Radio-g.fr.
Quand le chant
chant des pistes s'éleva sur la plaine. Juste après la pluie, dans l'odeur de la terre, là où surgissent les couleurs des vallées, là dans la nuque des ravins ondulés, je retiens l'écho dans le creux de ma main, au rayon de l'eau, à l'abri en chemin. Je me planterai un arbuste à sa trace, je mêlerai son écorce à l'espace. La plaine, dans ses habits infinis, devenait le monde entier. La plaine, dans ses habits infinis, devenait le monde entier. Et quand tous les chants peu à peu résonnèrent, sous les fossiles, les racines s'éveillèrent, redécouvrant les contours oubliés d'un territoire peu à peu dessiné. Je retiens les traits invisibles des chemins, au rayon de l'air étourdi au matin. Je ferai mienne les histoires une à une, jusqu'à savoir les collines et les dunes. La plaine, dans ses habits infinis, devenait le monde entier. La plaine, dans ses habits infinis, devenait le monde entier. Ses habits infinis devenaient le monde entier.
Somebody